Aujourd'hui en lecture. Bouillon de lecture, un bouillon de lecture d'été qui vous permet de redécouvrir les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Aujourd'hui, Catherine, tu nous lis.
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous lire Avril 2000, donc un an après le grand voyage d'Hervé la semaine dernière, la troisième expédition. Alors, il faut peut-être rappeler que les chroniques, puisque ça s'appelle des chroniques, en fait, à l'origine, ont été publiées voilà,
une à une.
Une à une dans un magazine entre 1945 et 50. Et la première édition américaine du livre complet, c'est en 50. Mais en France, on ne l'a découvert en français qu'en 55.
Voilà. 55. Exactement, oui. Ouais. Et puis, republié depuis. Hein,
ouais.
Puisque moi, là, je lis une émission qui a été publiée en 2014.
Édition.
Une édition, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Une édition qui a été publiée en 2014.
La fusée descendait à travers l'espace. Elle venait des étoiles et des vertiges noirs, des scintillantes orbites et des silencieux golfes interstellaires. C'était une nouvelle machine. Elle recelait du feu dans ses entrailles et des hommes dans ses cellules métalliques. Elle laissait derrière elle un sillage ardent, net et silencieux. À l'intérieur se trouvaient 17 hommes, y compris le capitaine. La foule, sur la piste de lancement de l'Ohio, avait poussé des exclamations. Les mains s'étaient tendues frénétiquement dans le soleil. La fusée avait craché d'immenses fleurs rutilantes et disparu dans le ciel, entamant la troisième croisière vers Mars. Maintenant, elle perdait de la vitesse au contact des atmosphères supérieures de Mars. Il en émanait toujours force et beauté. Elle avait traversé les océans noirs de l'espace comme un pâle Léviathan. Elle avait dépassé la vieille lune et s'était lancée dans une succession infinie de néants. À bord, les hommes avaient été brimbalés, secoués, malades, guéris tour à tour. L'un d'eux était mort, mais maintenant les 16 survivants, les yeux clairs et les visages plaqués au hublot massif, regardaient Mars monter vers eux. Mars ! S'écria le navigateur loustique. « Bonne vieille planète !» dit Samuel Ingston, l'archéologue. « Nous y sommes !» dit le capitaine John Black. La fusée atterrit sur une pelouse de gazon vert. Tout près dans l'herbe se dressait une biche de bronze. Un peu plus loin s'élevait une grande maison brune, victorienne, paisible sous le soleil, surchargée de festons rococo avec des carreaux multicolores, bleu, rose, jaune et vert, aux fenêtres. Sur le perron prospéraient des géraniums et un vieux hamac accroché au plafond du porche se balançait doucement sous la brise. Au faîte de la maison s'érigeait un dôme avec des vitraux en losange et un toit à pans coupés. Par une des fenêtres de devant, on apercevait sur un pupitre un morceau de musique intitulé « Mon bel Ohio ». Autour de la fusée, dans quatre directions, s'étendait la petite ville, verte et tranquille sous le printemps de mars. Il y avait des petites maisons blanches, d'autres en briques rouges, de grands ormes, des érables et de hauts châtaigniers s'agitaient dans le vent. Les hommes dans la fusée regardaient ce décor, puis ils se dévisagèrent et contemplèrent à nouveau le paysage. Ils s'étaient pris par les coudes, le souffle subitement coupé. Ils étaient devenus très pâles. « Nom de Dieu !» murmura Lustig en se passant la main sur la figure. « Nom de Dieu !» « Inimaginable !» dit Samuel Ingston. « Seigneur !» dit le capitaine John Black. « Capitaine !» appela le chimiste. « L'atmosphère est plutôt ténue, mais il y a assez d'oxygène, on ne risque rien. »« Alors sortons !» dit Loustic. « Attention !» dit le capitaine John Black. « Comment savoir au juste à quoi nous avons affaire ?»« C'est une petite ville avec un air raréfié, mais respirable, capitaine. » Et une petite ville identique à celle de la Terre, dit Ingston, l'archéologue. C'est invraisemblable, mais vrai. Le capitaine John Black, lui, jeta un coup d'œil distrait. Pensez-vous que les civilisations de deux planètes aient pu progresser et évoluer parallèlement, Ingston? Je ne l'aurais jamais cru, capitaine. Le capitaine Black se tenait près du hublot. Regardez là-bas, des géraniums, une plante spécialement individualisée. Cette variété spécifique n'est connue sur la Terre que depuis 50 ans. Songez que l'évolution d'une plante couvre des millénaires. Ensuite, dites-moi s'il est logique que les Martiens possèdent 1. Des fenêtres à vitraux, 2. Des coupoles, 3. Des hamacs, 4. Un instrument qui ressemble à un piano et qui vraisemblablement est un piano. 5. Si vous regardez attentivement dans cette lunette télescopique, est-il logique qu'un compositeur martien ait écrit un morceau de musique intitulé, par une singulière coïncidence, « Mon bel Ohio » ? Autrement dit, existerait-il sur Mars un fleuve appelé l'Ohio ? Le capitaine Williams, naturellement, s'écria Ingston. Quoi ? Le capitaine Williams et son équipage de 3 hommes. Ou Nathaniel York et son compagnon, ça expliquerait tout. Non mais ça n'explique rien du tout. Dans la mesure où il nous a été permis de conclure, l'expédition York a explosé le jour de son arrivée sur Mars. Et York et son second sont morts. Quant à Williams et ses 3 hommes, leur appareil a explosé le lendemain de leur atterrissage. Du moins, les pulsations de leur radio ont cessé à ce moment-là. On a donc pensé que si les hommes avaient survécu, elles auraient continué à émettre. De toute façon, l'expédition York date d'un an et le capitaine Williams et ses hommes ont atterri ici dans le courant d'août dernier. En admettant qu'ils soient encore en vie, auraient-ils pu, même avec l'aide d'une race martienne particulièrement évoluée, édifier une ville pareille et la vieillir en un délai aussi court ? Non mais regardez ces maisons ! Leur construction remonte au moins à 70 ans. Mais regardez la charpente de ce porche ! Regardez ces arbres, tous centenaires ! Non, 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 ce n'est l'œuvre ni de York ni de Williams. L'explication est ailleurs. Tout ça ne me plaît pas et je ne quitterai pas la machine avant d'en avoir le cœur net. À ce propos, dit Loustic, hochant la tête, Williams et ses hommes, aussi bien que York, se sont posés sur l'autre face de Mars. Nous avons pris grand soin d'atterrir sur ce côté-ci. Très juste. Au cas où une tribu locale de martiens hostiles aurait tué York et Williams, nous avons des instructions pour atterrir dans une autre région pour éviter la répétition d'un pareil désastre. Nous voilà donc en principe dans un pays que Williams et York n'ont jamais vu. Bon sang, dit Ingston. Je veux aller voir cette ville de près, capitaine, si vous le permettez. Il se peut que des modes de pensée et des civilisations identiques coexistent sur toutes les planètes de notre système solaire. Nous sommes peut-être sur le seuil de la plus grande découverte psychologique et métaphysique de notre époque. Je suis partisan d'attendre un moment, dit le capitaine John Black. Capitaine, peut-être sommes-nous en présence d'un phénomène qui, pour la première fois, prouverait irréfutablement l'existence de Dieu. Beaucoup de gens se passent de telles preuves et nourrissent une foi solide, Monsieur Ingston. Je suis de cela, capitaine, mais une ville comme celle-ci ne peut s'expliquer sans intervention divine. Les détails ! Oh, je me sens tellement remué que je ne sais s'il faut rire ou pleurer. Bon, abstenez-vous de l'un et de l'autre jusqu'à ce que nous sachions ce que nous affrontons. Affronter, déclara Loustic. Mais nous n'affrontons rien, capitaine. C'est une bonne petite ville tranquille et verdoyante qui ressemble rudement à celle où je suis né. Elle me plaît déjà. Quand êtes-vous né, Loustic ? En 1950, capitaine. Et vous, Ingston ? En 55, capitaine. Dans l'Iowa. Et j'ai l'impression d'être chez moi. Ingston, Loustic, je pourrais être votre père à tous les deux. J'ai 80 ans sonnés. Je suis né en 1920 en Illinois. Et par la grâce de Dieu et les progrès d'une science capable depuis 50 ans de rajeunir certains vieillards, je me trouve avec vous sur Mars aussi dispo que vous tous, mais infiniment plus méfiant. Cette ville paraît très paisible et accueillante. Elle ressemble tellement à Green Bluff, Illinois, qu'elle me fait peur. En fait, elle ressemble beaucoup trop à Green Bluff. Radio Terre, dites-leur que nous avons atterri, c'est tout. Dites que nous transmettrons un rapport complet demain. Bien, capitaine. Le capitaine Black approcha du hublot son visage qui aurait dû être celui d'un octogénaire mais n'accusait que la moitié de cet âge. Voilà ce que nous allons faire, Loustic. Ingston, vous et moi allons explorer la ville. Les autres resteront à bord. S'il arrive quoi que ce soit, ils pourront filer. Vaut mieux perdre 3 hommes qu'une expédition complète. Si les choses tournent mal, notre équipage pourra prévenir la prochaine fusée. Celle du capitaine Wilder, je crois, qui doit être prête à décoller pour Noël prochain. Si Mars doit leur réserver une réception hostile, il faut à tout prix que la prochaine fusée soit bien armée. La nôtre l'est déjà, nous avons amené un véritable arsenal. Alors que les hommes gardent les armes sous la main. Allons-y, Loustic. Venez, Ixton. Les trois hommes descendirent ensemble la passerelle. C'était une belle journée de printemps. Une mésange perchée dans un pommier en fleurs chantait à pleine gorge. Une pluie de pétales neigeux tombait à chaque souffle du vent dans les branches feuillies et le parfum des fleurs flottait dans l'air. Quelque part en ville, quelqu'un jouait du piano. Et les notes, proches ou lointaines, s'égrenaient doucement. L'air était « Beautiful Dreamer ». Ailleurs, sur un phonographe nasillard, grinçait un vieux disque de « Roaming in the Gloaming » chanté par Harry Lauder. Les trois hommes s'étaient arrêtés à proximité de la fusée. Un peu essoufflés, ils aspiraient l'air ténu, si ténu. Puis ils repartirent à pas lents comme pour éviter de s'épuiser. Loustic se mit à trembler. Samuel Ingston en fit autant. Le ciel était calme et serein. Un ruisseau courait quelque part sous la fraîcheur ombragée d'une ravine rocailleuse. On entendait sur une route trotter et cahoter un cheval et sa charrette. « Capitaine, dit Samuel Ingston, les premières fusées pour Mars ont dû partir avant la Première Guerre mondiale. C'est la seule explication, la seule. » « Non. Bah, alors comment expliquez-vous ces maisons, la biche de bronze, les pianos, la musique ?» Ingston prit le capitaine par le coude et le regarda dans les yeux. « Dites-moi qu'il y avait eu en 1905 des gens qui, détestant la guerre, se sont secrètement entendus avec des savants pour construire une fusée et sont arrivés sur Mars. »« Non, 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 Ingston. » Mais pourquoi pas? Le monde était bien différent en 1905, ils pouvaient conserver le secret beaucoup plus facilement. Mais une machine aussi complexe qu'une fusée, non, c'était un secret impossible à garder. Et ils sont venus s'installer ici et bien entendu ils ont construit des maisons semblables à celles de la Terre, puisqu'ils amenaient leur culture avec eux. Et ils ont vécu ici tout ce temps, dit le capitaine. Dans la paix et le calme, oui. Peut-être ont-ils fait plusieurs voyages, assez pour transporter la population d'une petite ville. Puis ils sont restés là de peur d'être découverts. Voilà pourquoi cette ville semble si vieillotte. Je n'y vois rien datant d'après 1927. Et vous? À moins, capitaine, que les premières fusées ne remontent à une date antérieure. Peut-être ont-elles été construites il y a des siècles et tenues secrètes par un petit groupe d'hommes qui ne sont revenus de Mars faire des brefs séjours sur la Terre qu'à de très longs intervalles. À vous entendre, ce serait presque vraisemblable. Mais il faut que ce le soit, la preuve est sous nos yeux. Il ne nous reste qu'à trouver les habitants pour vérifier cette hypothèse. L'épais tapis de gazon vert étouffait le bruit de leurs pas et sentait l'herbe fraîchement coupée. Malgré lui, le capitaine John Black se sentait envahi par une grande inquiétude. Il n'avait pas revu de petite ville depuis 30 ans. Le bourdonnement des abeilles printanières le berçait et l'apaisait, et la fraîcheur de toute chose lui mettait un baume sur le cœur. Ils posèrent le pied sur le perron, les marches de bois sonnaient creux sous leurs pas, comme ils montaient vers le treillis ajouré de la porte. À l'intérieur, ils aperçurent un rideau de perles tendu dans le hall d'entrée, un chandelier de cristal et un paysage de Maxfield Parish dans son cadre, au-dessus d'un confortable fauteuil Morris. Une odeur vétuste de grenier de province, infiniment confortable, flottait dans la maison. On entendait un tintement de glace dans un pichet. Au fond d'une cuisine invisible dans la chaleur du jour, quelqu'un préparait un repas. Une douce voix de femme fredonnait une chanson. Le capitaine John Black tira la sonnette. Des petits pas légers s'approchèrent dans le hall et une femme au visage aimable d'une quarantaine d'années, vêtue d'une robe telle qu'on les portait vers 1909, fit son apparition. « Puis-je vous être utile ? » demanda-t-elle. « Je vous demande pardon, » dit le capitaine Black, indécis, mais nous cherchons... Enfin, c'est-à-dire, pourriez-vous nous aider ? Il s'arrêta, elle fixa sur lui un regard sombre et surpris. « Si vous vendez quelque chose, commença-t-elle ? » « Ah non, 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 attendez, s'écria-t-il. Dans quelle ville sommes-nous ? » Elle le toisa. « Comment ça, dans quelle ville sommes-nous ? Vous vous trouvez dans une ville et vous ne savez pas son nom ?» Le capitaine semblait mûr pour aller s'affaler à l'ombre d'un pommier. « Mais nous sommes étrangers, dit-il. Nous aimerions savoir comment cette ville est arrivée ici et comment vous-même y êtes venu. Vous êtes des agents du recensement ?»« Ah non !»« Tout le monde sait que cette ville a été construite en 1868. »« C'est un petit jeu ?»« Non, 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 pas un jeu, s'écria le capitaine. Nous venons de la terre. »« Ah, vous voulez dire que vous sortez du sol ?» dit-elle stupéfaite. « Non, nous arrivons de la troisième planète, la Terre, dans une fusée, et nous venons d'atterrir ici, sur la quatrième planète, Mars. » Nous sommes ici, expliqua la femme comme s'adressant à un enfant, à Green Bluff, Illinois, sur le continent d'Amérique, entouré par les océans Atlantique et Pacifique, situé dans ce qu'on appelle le monde et parfois la Terre. Bon, maintenant allez-vous-en, bonsoir. Elle repartit en trottinant vers le fond du hall, écartant des doigts le rideau de perles. Les trois hommes se regardèrent. « Entrons quand même, » dit Loustic. « Non, on ne peut pas faire ça, c'est une propriété privée, bon sang. » Ils allèrent s'asseoir sur la première marche du perron. « Avez-vous songé, Ingston, que nous avons peut-être, je ne sais comment, dévié de notre route et fait demi-tour et atterri sur la terre ?»« Bon, enfin, comment voulez-vous ?»« Je ne sais pas, oh, mon Dieu, si je pouvais comprendre. » Enfin, nous avons contrôlé notre trajectoire tout du long, dit Ingston. Nos chronos ont enregistré les kilomètres, nous avons dépassé la Lune et traversé l'espace. Je suis positivement certain que nous sommes sur Mars. Mais supposons, dit Loustic, que par accident dans l'espace et le temps, nous nous soyons perdus dans les dimensions pour atterrir sur une Terre 30 ou 40 ans en arrière. Oh, je vous en prie, Loustic. Loustic remonta vers la porte, tira la sonnette et lança dans la pénombre de la pièce fraîche. « En quelle année sommes-nous ?»« 1926 !»« Quelle question !» dit la femme, assise dans un rocking chair en train de boire une limonade à petits coups. « Vous avez entendu ?» dit Loustic en pivotant d'un bloc vers les autres. « 1926 ! Nous avons bien remonté le temps, nous sommes sur la Terre !» Loustic se rassit et les trois hommes s'abandonnèrent à leur terreur et à leur consternation en se palpant les genoux avec frénésie. « J'avais vraiment pas prévu ça !» dit le capitaine. J'avoue que c'est pas rassurant. Comment un phénomène pareil est-il possible? Ah, si seulement nous avions emmené Einstein. Qui va nous croire dans cette ville, dit Ingston? Est-ce un jeu dangereux que nous jouons avec le temps, je veux dire? Ne ferait-on pas mieux de repartir en vitesse et de rentrer chez nous? Ah non, pas avant d'avoir fait un deuxième essai. Ils passèrent devant trois maisons et s'arrêtèrent devant une petite villa blanche à l'ombre d'un chêne. Je tiens à rester si possible dans la logique, dit le capitaine, et je ne crois pas que nous ayons touché juste. Supposez, Ingston, comme vous l'avez d'abord suggéré, que les premiers voyages vers Mars aient eu lieu il y a longtemps. Au bout d'un certain nombre d'années passées, ici, les habitants de la Terre ont commencé à éprouver le mal du pays. D'abord une névrose inoffensive, puis une psychose solide, enfin une démence caractérisée. Quelle serait votre position en tant que psychiatre devant un tel problème ? Ingston réfléchit. Ben, je crois que je modifierai la civilisation sur Mars de façon à l'adapter un peu plus chaque jour à celle de la Terre. Si je disposais des moyens pour reproduire les plantes, les routes, les lacs et même les océans, je n'hésiterais pas. Ensuite, grâce à une hypnose collective quelconque, je persuaderais tous les habitants d'une ville comme celle-ci, par exemple, qu'ils se trouvent effectivement sur la Terre et non sur Mars. Pas mal, Ingston. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Cette femme que nous venons de voir se croit sur la Terre. Elle échappe ainsi à sa démence. Elle et tous les autres habitants de cette ville sont les sujets de la plus grande expérience de migration et d'hypnose à laquelle il nous ait jamais été donné d'assister. « C'est cela même, capitaine !» s'écria Loustic. « Absolument !» dit Ingston. « Enfin !» soupira le capitaine. « Nous marquons un point. Je me sens mieux. C'est tout de même un peu plus logique. Cette histoire de dimension, d'aller-retour et de voyage à travers le temps me tournait sur l'estomac. Mais maintenant, le capitaine sourit. Hey, « J'ai l'impression que nous allons être plutôt populaires ici. »« Croyez-vous ?» dit Loustic. « Après tout, comme les pèlerins, ces gens sont venus ici fuir la terre. Peut-être seront-ils fort mécontents de nous voir. Peut-être vont-ils nous chasser ou nous supprimer. Notre armement est supérieur. Voyons la prochaine maison. Allons-y. » Mais ils avaient à peine traversé la pelouse que Loustic s'arrêta net, le regard fixé vers la rue paisible qui traversait la ville. « Capitaine, » dit-il. « Qu'est-ce qui se passe, Loustic ?»« Oh, capitaine, capitaine, ce que je vois !» Et Loustic se mit à pleurer. Ses mains s'élevèrent, frémissantes, et l'émerveillement, la joie et l'incrédulité se peignirent sur son visage. Il semblait sur le point de devenir fou de bonheur d'une seconde à l'autre. Les yeux rivés sur la rue, il se mit à courir, trébuchant, tombant et se relevant. « Mais regardez, regardez !»« Ne le perdons pas de vue, » dit le capitaine en prenant le pas de course. Maintenant, Loustic filait comme une flèche en poussant des hurlements. Il tourna dans une cour à mi-distance de la rue ombragée et bondit sur le perron d'une grande maison verte avec un coq métallique sur le toit. Il cognit à la porte, criant et pleurant, quand Ingston et le capitaine le rejoignirent. Ils étaient tous à bout de souffle, épuisés par leur galopade dans l'air raréfié. « Grand-mère ! Grand-père !» criait Loustic. Deux vieillards se tenaient debout sur le seuil. « David ! » s'écrièrent-ils d'une voix fluette, et ils se précipitèrent pour l'enlacer, lui taper sur l'épaule et tourner autour de lui. « David ! Oh, David, il y a si longtemps ! Mais comme tu as grandi, mon garçon, comme tu es grand ! Oh, David, mon petit, mais comment vas-tu ? Grand-mère, grand-père, sanglotait David Loustic, vous avez des mines magnifiques, mais magnifiques. Il les serrait, les faisait pivoter, les embrassait, les serrait sur son cœur, leur pleurait dessus. Puis il éteint un bout de bras, contemplant d'un œil clignotant les deux petits vieillards. Le soleil brillait dans le ciel, la brise soufflait, l'herbe était verte, la porte d'entrée grande ouverte. Mais entre, mon garçon, entre. Il y a du thé glacé pour toi, tout frais, tant que tu voudras. J'ai mes amis avec moi. Loustic se retourna, hilar, et fit des signaux frénétiques au capitaine et à Ingston. « Capitaine, venez, venez !»« Comment ça va ?» dirent les vieux. « Mais entrez donc, les amis de David sont nos amis, ne restez pas plantés là !» Dans le salon de la vieille maison, il faisait frais. On entendait dans un coin le tic-tac sonore d'une haute horloge ancienne aux moulures de bronze. Il y avait des coussins moelleux sur de grands divans, des murs tapissés de livres, un tapis épais aux arabesques roses et du thé glacé qui s'embuait au creux de la main et rafraîchissait les langues séchées. À nous tous, grand-mère heurta de son verre ses dents de porcelaine. « Et depuis quand es-tu ici, grand-mère ? » demanda Loustic. « Bah, depuis notre mort, » dit-elle d'un ton guilleret. « Depuis votre quoi ?» dit le capitaine John Black en baissant son verre. « Ben oui, » fit Loustic hochant la tête, « ils sont morts depuis 30 ans. » Et vous vous asseyez comme ça tranquillement ? S'écria le capitaine. Chut ! La vieille femme lui lança un coup d'œil vif. Qui êtes-vous pour discuter de ces problèmes ? Nous sommes ici. Qu'est-ce que la vie, après tout ? Qui décide pourquoi, où, comment tout arrive ? Nous ne savons qu'une chose. Nous sommes ici, vivants de nouveau, et nous ne nous posons pas de questions. Une seconde chance. Elle tint vers lui à pas menus et tendit son poignet frêle. Ben, tâtez ! Le capitaine tâta. Solide, n'est-ce pas ? Dit-elle. Il acquiesça. « Eh bien, fit-elle triomphante, pourquoi donc vous interroger ?»« Tout simplement, dit le capitaine, nous ne nous serions jamais attendus à une telle découverte sur Mars. Bah, »« Et maintenant, vous l'avez faite. Je peux vous le dire, bien des faits sur cette planète vous prouveront combien les voies du Seigneur sont infinies. »« Sommes-nous au ciel ?» demanda Ingston. « Absurde, non, bien sûr. C'est un autre monde et une deuxième chance qui nous a été donnée. » Personne ne nous a dit pourquoi, mais personne ne nous avait dit pourquoi nous étions sur la Terre. Hein. L'autre Terre, j'entends celle d'où vous venez. Comment savoir s'il n'y en avait pas encore une autre avant elle ? Question judicieuse, dit le capitaine. Loustic souriait toujours en contemplant ses grands-parents. Quand même, ça fait plaisir de vous voir. Oh, quand même, ça fait plaisir. Le capitaine se leva et s'administra une tape sur la cuisse. Ah, il faut que nous partions. Merci pour ce thé. Vous allez revenir, j'espère, dirent les vieillards. « Venez donc dîner ce soir. Nous tâcherons, merci. Nous avons beaucoup à faire, mes hommes attendent mon retour à la fusée. » Il s'arrêta et regarda vers la porte, stupéfait. Au loin, dans le soleil, on entendit un brouhaha de voix, un cri et une grande clameur. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Ingston. « Nous allons le savoir. » Et le capitaine John Black franchit la porte en coup de vent et traversa en courant la pelouse verte en direction de la rue de la petite ville martienne. Puis il s'immobilisa, le regard fixé sur la fusée. Les panneaux étaient ouverts et l'équipage sortait en troupe en gesticulant. Une foule était rassemblée autour de la machine et au milieu de tous ces gens, les membres de l'équipage s'agitaient, parlaient, riaient, serraient des mains. Des rondes s'organisaient, des groupes compacts se formaient, la fusée gisait vide et abandonnée. Des flonflons retentirent dans le ciel, tubas et trompettes attaquèrent un air allègre scandé par les coups sourds des grosses caisses et le sifflet aigu des fifres. Des fillettes blondes comme les blés cabriolaient. Des petits garçons poussaient des acclamations, de gros hommes offraient des cigares à la ronde. Le maire de la ville entama un discours, puis tous les membres de l'équipage, une mère à un bras, un père ou une sœur à l'autre, s'égayèrent vers les petites villas ou les grandes maisons le long de la rue. « Arrêtez !» cria le capitaine Black. Les portes se refermaient en claquant. La chaleur s'accrut dans le ciel sans nuages et tout redevint silencieux. L'Orphéon disparut en fanfare à l'angle d'une rue et la fusée resta seule, étincelante sous le soleil. « Déserteurs !» dit le capitaine. « Ils ont abandonné leur poste, ma parole. J'aurai leur peau sacrédiée. Ils avaient des ordres formels. »« Capitaine, » dit Loustic, « ne soyez pas trop dur. Ils ont tous retrouvé des parents ou des amis. Imaginez leur émotion, capitaine, en voyant tous ces visages familiers autour de l'appareil. Les ordres sont les ordres, bon Dieu !»« Mais qu'auriez-vous fait à leur place, capitaine ? J'aurais obéi aux ordres. » Le capitaine resta bouche bée, arpentant le trottoir sous le soleil martien, grand, souriant, les yeux étonnamment clairs et bleus, un jeune homme d'environ 25 ans s'approcher. « John ?» cria le jeune homme en se mettant à courir. « Quoi ?» Le capitaine John Black vacilla. Le jeune homme lui arriva dessus, lui empoigna la main et lui tapa sur l'épaule. « C'est toi ?» dit le capitaine Black. « Naturellement, qui croyais-tu que c'était ?»« Edward !» Le capitaine se tourna vers Loustic et Ingston sans lâcher la main de l'étranger. « Mon frère, Edward !» dit-il. « Ed, je te présente mes hommes, Loustic et Ingston. » « Mon propre frère !» Ils se congratulèrent et finalement s'embrassèrent. « Ed, John, vieille cloche, toi, t'as une mine splendide !»« Ed, mais dis-moi, Ed, t'as pas changé depuis tout ce temps ?»« Tu es mort, je me souviens, à 26 ans. J'en avais 19. Mon Dieu, il y a si longtemps. Et te voilà, Seigneur. Mais raconte-moi un peu. »« Maman attend, » dit Edward Black, souriant. « Maman ? Et papa aussi ? Papa ?» Le capitaine faillit s'écrouler comme sous un coup de massue. Il se mit à marcher d'un pas d'automate détraqué. « Maman et papa vivants, mais où ça ?»« Bah dans la vieille maison, Oak Knoll Avenue. »« La vieille maison ?» Le capitaine ouvrit de grands yeux ravis. « Vous entendez ça, Loustic, Ingston ?» Ingston était déjà parti. Il avait vu sa propre maison au bout de la rue et courait à toutes jambes. Loustic se mit à rire. « Voyez, capitaine, ce qui est arrivé à tout l'équipage. » « C'était plus fort qu'eux. »« Ah ouais, ouais, ouais. » Le capitaine ferma les yeux. « Quand je les rouvrirai, tu seras parti. » Il cligna des yeux. « Non, t'es encore là ? Mon Dieu, Ed, t'as l'air en pleine forme. Allez, viens, le déjeuner attend. J'ai prévenu maman. »« Capitaine des Loustics, si vous avez besoin de moi, je serai chez mes grands-parents. »« Quoi ? Ah, oui, très bien, Loustic. À plus tard, alors. » Édouard lui prit le bras et l'entraîna. « Voilà la maison, tu te souviens ? Oh, tu penses ? Je te parie que j'arrive le premier au perron. » Et ils se mirent à courir. Le bruissement des arbres étourdissait le capitaine Black. Le sol rugissait sous ses pieds. Il vit la silhouette claire d'Edward Black se détacher en avant de lui. Il vivait un extraordinaire rêve éveillé. Il aperçut la maison qui fonçait vers lui, la porte grande ouverte. « Battu !» cria Edward. « Ah, je suis un vieil homme, » dit le capitaine Pentland. « Et t'es encore jeune. Mais autrefois, tu me battais toujours, tu te souviens ?» Sur le seuil se tenait maman, rose, pimpante, épanouie. Derrière elle, poivre et sel, papa, sa pipe à la main. Maman, papa, il escalada les marches à leur rencontre comme un enfant. Ce fut un long et bel après-midi. Ils s'attardèrent à table, puis allèrent s'asseoir dans le salon. Il leur raconta toute l'histoire de sa fusée. Ils hochaient la tête en souriant. Mère était toujours la même et papa trancha le bout de son cigare d'un coup de dent et l'alluma pensivement, comme autrefois. Le soir pour le dîner, il y avait une dinde rôtie et le temps s'écoulait doucement. La nuit descendait dans les arbres et envahissait le ciel. Des halos de lumière rose auréolaient les lampes dans la demeure paisible. Maman mit un disque sur le gramophone et dansa avec le capitaine John Black. Elle avait toujours le même parfum. Il s'en souvenait que l'été où elle et papa avaient été tués dans l'accident de chemin de fer. Il la sentait si vivante dans ses bras, comme il dansait légèrement au rythme de la musique. « Ce n'est pas tous les jours, » dit-elle, « qu'on obtient la chance d'une seconde existence. » En me réveillant demain matin, dit le capitaine, « je me retrouverai dans ma fusée et tout aura disparu. »« Non, ne pense pas des choses pareilles, » s'écria-t-elle d'une voix contenue. « Ne te pose pas de questions. Dieu est bon pour nous, soyons heureux. »« Ah, excuse-moi, maman. » Le disque s'acheva dans un grincement circulaire. « T'es fatigué, fiston. » Papa pointa sa pipe vers le plafond. « Ta vieille chambre t'attend, le lit de cuivre et tout. Mais il faut que je rassemble mes hommes. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais je sais pas, il n'y a pas de raison, en fait. Bah non, il n'y a aucune raison. Ils sont tous en train de dîner ou au lit. Une bonne nuit de sommeil ne leur fera pas de mal. Allez, bonne nuit, mon fils. » Maman l'embrassa sur la joue. « C'est si bon de t'avoir à la maison. C'est si bon d'être chez soi. » Ah, j'en en peux plus, je suis moulue. Il m'arrivait trop de choses aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir passé 48 heures sous une pluie battante sans manteau ni parapluie. Je suis submergée d'émotions jusqu'à la moelle. Alors, voilà donc Mars, dit le capitaine en se déshabillant. Mais oui. Edward se dévêtait avec de longs mouvements paresseux. Il tira sa chemise au-dessus de sa tête, découvrant ses épaules bronzées et sa nuque solide et musclée. La lumière était éteinte. Ils étaient au lit côte à côte, comme autrefois. Combien de lustres plus tôt. Ah ! La pièce carrée était silencieuse. On n'entendait que leur respiration. Allongé, détendu, il se laissa aller au fil de ses pensées. Il reconsidéra les diverses théories émises dans l'excitation première de l'atterrissage par Ingston et Lustig. Il laissa toutes sortes d'hypothèses nouvelles s'échafauder dans son esprit comme une pyramide de cailloux, s'efforçant de les examiner sous tous les angles. Maman, papa, Edwards, Mars, la Terre, Mars, les Martiens. Qui vivait ici sur Mars 1000 ans plus tôt? Les Martiens? Ou la situation avait-elle toujours été identique à celle qui se présentait aujourd'hui? Les Martiens. Il répétait le mot dans sa tête paresseusement. Puis il faillit rire tout haut. Il avait brusquement envisagé la théorie la plus absurde. Il éprouva comme un frisson. À écarter, ridicule. Et pourtant, admettons que Mars soit habité par des Martiens, et qu'en voyant arriver notre fusée et nous apercevant à l'intérieur, ils se soient pris de haine pour nous. Admettons ensuite, idée purement gratuite, qu'ils veuillent nous détruire comme indésirables envahisseurs, et ceci de la façon la plus habile, en nous prenant par surprise. Quelle serait alors la meilleure arme au service des Martiens contre des terriens munis d'armes atomiques? La réponse était intéressante. Télépathie, hypnose, mémoire, imagination. Si toutes ces maisons, ce lit, n'avaient aucune réalité, qu'il ne s'agisse que de résidus de mon imagination matérialisés par le pouvoir télépathique et hypnotique des Martiens, pensait le capitaine John Black. Si toutes ces maisons avaient en fait une autre forme, un style martien, mais qu'en jouant sur mes désirs et mes besoins, ces Martiens leur aient donné l'aspect de ma ville natale pour écarter mes moindres soupçons. Peut-on trouver le meilleur moyen de berner un individu que de se servir de ses propres parents comme à appât? Et cette ville, si ancienne, datant de 1926, bien antérieure à la date de naissance de tous mes hommes, remontant à une époque où j'avais 6 ans, où il existait en effet des disques de Harry Lauder, des paysages de Maxfield Parrish au mur, des rideaux de perles, mon bel Ohio et une architecture baroque. Si les Martiens avaient puisé tous les souvenirs d'une ville dans ma seule mémoire, on dit que les souvenirs d'enfance sont les plus nets. Et après avoir construit la ville à partir de ma mémoire, s'il l'avait peuplé des êtres les plus chers aux passagers de la fusée. Et si ces deux personnes endormies dans la pièce voisine n'étaient pas mon père et ma mère, mais deux Martiens incroyablement ingénieux, avec le pouvoir de me maintenir dans cet état d'hypnose? Ne serait-ce pas terrifiant de découvrir que tout ceci rentre dans un vaste plan édifié par les Martiens pour nous diviser, nous conquérir et nous tuer? En pleine nuit, mon frère couché dans ce lit à côté va peut-être changer de forme, devenir un être terrible, un martien. Il serait si simple pour lui de se tourner dans son lit et de me planter un couteau dans le cœur. Et dans toutes ces autres maisons, le long de la rue, une douzaine d'autres pères ou frères se métamorphosant soudain, s'armant de couteaux et massacrant tous mes hommes endormis sans méfiance. Ses mains tremblaient sous les couvertures. Il se sentait glacé. Soudain, ce ne fut plus une hypothèse. Soudain, il fut saisi de terreur. Il se souleva sur les coudes et écouta. La nuit était très calme. La musique s'était tue. Le vent était tombé. Son frère dormait à côté de lui. Circonspect, il souleva les draps, les rabattit et se glissa hors du lit. Il traversait la pièce à pas de loup quand la voix de son frère s'éleva. « Où vas-tu ? » « Quoi ? » « Je te demande, » dit son frère d'une voix très sèche, « où tu crois aller ?»« Je vais boire un verre d'eau. »« Mais tu n'as pas soif. »« Si, si, très soif. »« Tu mens. » Le capitaine John Black se rua brusquement à travers la pièce et se mit à crier. Il cria 2 fois, mais n'atteignit jamais la porte. Dans la matinée, l'orchestre se mit à jouer une marche funèbre. De chaque maison sortirent de petits cortèges solennels portant des caisses oblongues, et dans la rue ensoleillée s'avancèrent sanglotant les grands-mères, les mères, les sœurs, les frères, les oncles et les pères. Ils se dirigeaient vers le cimetière où s'ouvraient des fosses fraîchement creusées flanquées de pierres tombales neuves. 16 fosses en tout et 16 pierres tombales. Le maire fit un petit discours affligé, son visage était tantôt celui du maire, tantôt celui d'une créature inconnue. Les parents Black étaient là, avec le frère Edouard. Ils pleuraient. Leurs traits, d'abord familiers, se brouillèrent et devinrent indéfinissables. Grand-père et grand-mère Lustig étaient là et pleuraient aussi, leurs visages fondés comme de la cire, tremblant comme toute chose tremble sous la chaleur. On souleva les cercueils. Quelqu'un parla à voix basse du décès inattendu et soudain de 16 braves garçons dans le courant de la nuit. On rejeta la terre sur les couvercles des cercueils. L'Orphéon, jouant Columbia, le joyau de l'océan, reprit d'un pas martial la direction de la ville, et chacun se donna quartier libre pour la journée.